Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du mal du pays, ce que l'on ressent lorsque l'on vit loin de chez soi et que cet éloignement provoque un malaise, un mal-être qui va se ressentir de différentes manières. Ce manque, cette perte de repères peut empêcher de dormir, fragiliser, isolé. Cette difficulté à trouver de nouvelles marques peut faire cruellement ressentir la solitude et même entraîner des symptômes physiques, des maux de tête, des maux de ventre. Alors, y a-t-il des moyens de prévenir ce mal du pays? Vers qui se tourner lorsque l'on se retrouve dans une telle situation? Y a-t-il des prises en charge ou des traitements pour soulager ces difficultés d'adaptation? Si vous souhaitez témoigner, posez vos questions à notre invité. Vous pouvez nous joindre à notre numéro WhatsApp au 33 7 71 18 46 41. Comment identifier le mal du pays? D'où vient ce sentiment d'insécurité? Même quand le voyage ou le séjour ont été planifiés de longue date, à votre écoute dans les studios de RFI, nous retrouvons Jean-Oscar Macasso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse, ethnopsychologue et expert auprès des tribunaux de Paris. Et vous avez cofondé, Jean-Oscar Macasso, l'association Maison Sunjana Keïta, centre de médiation culturelle et d'aide psychologique aux familles migrantes. En fin d'émission, à l'occasion de la journée mondiale des malades de la lèpre, eh bien nous allons parler de cette maladie infectieuse chronique avec le docteur Bertrand Cauchois, expert international de la lèpre, conseiller médical de la Fondation Raoul Folleroux.
Priorité santé sur RFI.
Le mal du pays, ça peut concerner des cas de figure très différents, les populations migrantes, les étudiants en séjour à l'étranger, les travailleurs qui changent de région pour des besoins professionnels. Jean-Oscar Macasso, ce ressenti associé à une perte de repères, est-ce que ça concerne plus certaines situations que d'autres? Est-ce qu'il y a des facteurs, on va dire, aggravants du mal du pays?
Oui, il y a plusieurs facteurs, mais il y a d'autres sujets qui sont encore plus victimes de ce mal de pays. Parce que nous le remarquons à travers nos patients qui viennent. Et lorsqu'on prépare à voyager, vous savez, c'est un grand projet pour ceux qui veulent aller à l'étranger, ceux qui veulent changer les régions. Et ceci étant, ils sont dans quelque chose de l'ordre de l'imprévu, l'inconnu de ce qui va se passer. Et donc, dans leur tête, dans leur esprit, tout va bien se passer. Et lorsqu'ils s'en rendent compte qu'ils arrivent à un lieu où ils n'arrivent plus à avoir des repères, et où il n'y a plus la communication qu'ils attendaient, malheureusement, ça commence à les affecter psychiquement, et aussi dans son entourage aussi, il voit, c'est l'isolement qui commence à s'inscrire. Et aussi, alors, le plus important de ce que je peux remarquer, ce sont les codes aussi, c'est-à-dire le code culturel, parce qu'ils ne sont plus les mêmes. Et donc, ils affrontent tout de suite le code culturel, un nouveau fonctionnement.
Code culturel, ça veut dire tout ce qui est du quotidien, ça va être tout, la nourriture, la langue, la façon même de dormir.
Exactement, même aussi les démarches administratives. Mmh. Vous savez, c'est ça aussi l'inconnu, parce qu'on pense que tout est facile là où on va. Mmh. Et lorsqu'on arrive, c'est là où on s'en rend compte que même le bonjour, on n'arrive pas à se dire bonjour avec un voisin de palier. Voyez-vous, moi j'ai rencontré une patiente pour la demande d'asile qui me disait, et là, je n'avais pas encore aperçu ça, vous savez, ça fait déjà à peu près 40 ans que je suis en France. Mais cette personne m'a ramené à réfléchir en me disant à chaque fois, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, docteur Macasso, que l'isolement, c'est quelque chose qui tue. Mmh. Imaginez-vous. Mmh. Alors, à chaque fois.
Même la manière de se regarder.
Même la manière de se regarder, et elle a eu vraiment un cours culturel qui l'a, pour elle, elle a failli se suicider parce qu'elle disait c'est pas possible. Moi, j'attends que j'apprenne.
Elle arrivait à dire ce qui lui manquait?
Oui, rien que la communication, la relation sincère. Mmh. Elle disait, mais les gens qui sont ici, j'ai l'impression qu'on me parle, même quand on veut me dire quelque chose, il faut qu'on passe par une autre personne pour m'en parler. Alors que j'attends que la personne m'en parle face à face. Hmm. Je suis plus simple que ça, imaginez-vous.
Je comprends complètement ce que vous dites. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal, par contre, à exprimer que c'est ça qui manque et qui vont transformer en fait cette douleur d'être loin de la maison par des douleurs dans le corps, des symptômes physiques.
Vous savez, là, la personne a eu la chance de rencontrer un professionnel. Avant qu'on en parle déjà, on a déjà installé le mal-être, déjà parce qu'on le sent déjà avant qu'on rencontre l'autre pour en parler. Et pour rayer cela, il faut qu'il y ait un lieu de parole, un lieu de confiance, avec des personnes pour lesquelles ils peuvent avoir normalement l'écoute, permettant de se dire, enfin, on m'a écouté à travers peut-être ma souffrance.
Est-ce que ce mal du pays peut être confondu, Jean-Oscar Macasso, avec une dépression, ce qu'on entend sous le nom de maladie-dépression, sans que la personne dise finalement c'est pas mon pays, c'est que c'est moi qui vais mal, c'est pas mon environnement qui me fait du mal.
Alors parfois il y a toujours une parole qui vient régulièrement, hein, qui dit qu'il ne s'intègre pas.
Ouais.
Le plus souvent, c'est ça qui revient. Mais au fond, en tant que professionnel, on sait quand même qu'il y a quand même une sensibilité dans des dépressions. Parce que tout le monde dit dépression, mais... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, ce mal-être, plus ou moins, on peut dire le mal-être de cette personne qui ne va pas bien, et doit avoir tous ces grilles de lecture. On ne peut pas l'isoler. Mais maintenant... Est-ce qu'il faut définir que c'est le mal du pays? C'est ça qui est le plus difficile vraiment à définir, peut-être dans notre psychopathologie.
Et précisément, est-ce que vous diriez qu'il y a certaines populations qui sont plus vulnérables que d'autres à ce mal du pays? Je ne vais pas faire des catégories, mais je pense particulièrement à certaines femmes ou à certaines personnes qui n'ont jamais quitté le village. Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité?
Oui, il y a c'est énorme. Vous savez, le plus souvent, les personnes qui viennent retrouver leur mari ici, vous savez, le plus souvent les femmes, ils sont plus vulnérables.
Dans le cadre d'un regroupement familial, par exemple.
Dans le regroupement familial, non seulement ça, mais il y a plusieurs facteurs. Vous savez, ce sont des mamans, je les appelle les mamans, qui arrivent dans le pays, qui ne savent pas parler français, qui n'ont pas du tout voyagé pour aller dans les villes de leur pays. Donc, elles quittent directement du village, je dirais même dans la forêt, pour venir dans la lumière.
Donc là, il y a zéro code.
Zéro code. Et sur les personnes, imaginez-vous, lorsqu'elles arrivent ici, à peine quelques mois, elles tombent enceintes et elles sont confrontées à des institutions qui, par moment même, elles ont peur même de les rencontrer, imaginez-vous. Donc, toutes ces choses-là, moi, je pense que ça crée même la folie, je dirais comme ça.
Oui, mais il y a aussi quelque chose, c'est que ces personnes ne sont pas informées de ce qui les attend vraiment. Et puis, elles ont du mal à exprimer le problème par peur de se plaindre et par peur de décevoir.
Oui, effectivement. Même si c'est pour la déception, par moment même, vous savez, lorsqu'on vous dit « il faut se débrouiller », même si on pense qu'il y a la communauté, parce que tout se base autour de la communauté pour qu'on puisse aussi vous soutenir. Mais arrivé à un certain moment, on vous lâche pour que vous puissiez aussi vous débrouiller seul. Alors, on a peur même d'en parler. Non seulement on a peur, par moment même, on a peur même de sortir. Parce qu'il y a la peur, on devient presque phobique sociale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas communiquer. Et même au niveau des repères, vous savez, c'est ça, on ne peut pas en parler, de l'handicap aussi qui est caché. Parce que les gens ne peuvent pas se repérer dans l'espace aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait un témoin pour les amener de là où il faut aller.
Donc, il y a une dépendance totale.
Il y a une dépendance totale et il y a ce renfermement, que ce soit psychique, que social, qui vient renforcer normalement, cette personne, malheureusement, qui se retrouve normalement, chez lui.
Alors, des conseils pour lutter contre le mal du pays. Tout de suite, un premier témoignage. On part pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé.
En ligne avec nous, c'est Djenéba. Djenéba, bonjour.
Bonjour, madame Caroline.
Alors, vous avez 27 ans, Djenéba, et vous vous êtes installée au Cameroun depuis combien de temps?
Depuis bientôt 2 ans.
2 ans, originaire d'où au départ?
Du Burkina Faso.
Alors, depuis ces 2 années passées au Cameroun, est-ce que vous êtes rentrée rendre visite à la famille?
Non.
Non. Et qu'est-ce qui a motivé ce départ loin de la maison?
En fait, j'ai obtenu une bourse d'études au Cameroun ici.
Donc, vous êtes partie pour des longues études, là ?
Oui.
Combien d'années, vous savez, au total, le projet ? Est-ce qu'il est déjà défini ? Est-ce qu'il est déjà encadré ?
Oui, oui, c'est pour 2 ans et je finis bientôt.
Vous finissez bientôt. Si on parle d'aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à ce déménagement ?
Aujourd'hui, je peux dire que ça va un peu. C'est, au départ, je souffrais vraiment.
Oui.
Parce que j'avais pas l'habitude de vivre seule, c'est-à-dire manger seule, dormir seule. Je souffrais vraiment. Et ça m'a amené à perdre du poids.
D'accord. Ça veut dire que vous aviez l'appétit coupé, vous ressentiez beaucoup de tristesse. Est-ce qu'il y avait aussi un impact sur votre sommeil ?
Exactement. J'arrivais plus à dormir.
Et avant, vous aviez déjà quitté la famille ou c'était la toute première fois ?
Je quittais d'habitude, mais juste pour 1 mois, 3 mois et je revenais.
Et à ce moment-là, vous n'aviez pas le mal du pays ?
Non, parce que je n'étais pas aussi très loin de la famille. Parce que Burkina, Côte d'Ivoire, ce n'est pas trop loin comme ça. Je pouvais rentrer à n'importe quel moment.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui vous manque en particulier ?
Oui, ma sœur.
Ouais. C'est votre sœur de cœur, c'est ça ?
Oui.
Vous passez des appels souvent à la famille ? C'est comment le lien avec WhatsApp, j'imagine ?
Oui, avec WhatsApp, on est tout le temps en communication.
Est-ce que vous avez réussi à tisser des liens ? Parce qu'on imagine, quand on est une jeune étudiante à Yaoundé, il doit y avoir quand même des occasions de faire des rencontres, de tisser des liens, pendant les cours, après les cours. Vous avez réussi à faire un petit réseau comme ça ?
Bon, juste un tout petit peu. Avec un compatriote de pays, on est venu ensemble. C'est avec lui que je suis presque tout le temps.
Et est-ce que vous avez ressenti certaines fragilités à certains moments où vous êtes senti un petit peu faible, vulnérable par rapport à cet isolement, Djenéba, quand vous étiez justement là à Yaoundé ?
Oui, je me sentais vraiment. Parce que quand j'arrivais plus à manger ni à dormir, j'ai commencé à tomber malade. J'ai développé, par exemple, des troubles gastriques et tout, et je me sentais très fragile.
Vous avez consulté pour ça ou pas ?
Oui, j'ai consulté. J'ai l'impression que c'est... Quand je suis triste, quand j'ai envie de revoir ma famille, en fait, je tombe malade.
Ouais. Vous faites le lien entre cette fragilité et la tristesse. Alors, on écoute vos questions. Jean-Oscar Macasso est à votre écoute. Je vous en prie, posez vos questions.
Bonjour, docteur.
Oui, bonjour. Bonjour, Geneva.
Docteur, en fait, ma première question, c'est de savoir si le fait que je tombe fréquemment malade est dû au fait que je n'arrive pas à m'adapter ou c'est juste parce que je suis coincée dans la tête.
Moi, je pense que tout ce que vous avez décrit, ce que j'ai dû comprendre, et ça entre vraiment dans la grille de lecture vraiment de mal-être vraiment de pays. Et vous l'avez bien défini en disant que c'est la première fois que je m'éloigne un peu de mes parents, très loin. Et moi, voilà, moi, je pense que c'est très important. On néglige un peu ce côté parce qu'aujourd'hui, c'est quand même flagrant parce que tout ce qui vous est arrivé, effectivement, c'est le manque vraiment de la famille et surtout votre sœur qui manquait. C'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous êtes jumelle ou pas, mais parce que la jumélité, encore, c'est pire. Mais ce que je peux comprendre est que la famille, vraiment, vous tenez beaucoup à votre famille. Et comme c'est la première fois, ça a été quelque chose, un choc pour vous, de s'éloigner, d'être loin vraiment d'elle. Et c'est ça qui a provoqué tout ce qui est dans l'insomnie, bien entendu, et tout ce qui est le problème gastrique. Et même, vous savez, l'indigestion, il y a d'autres qui vont jusqu'à la constipation pendant 1 mois, 2 mois. Oui, et c'est vrai, moi, j'en ai rencontré des patients comme ça. Donc, on ne sait pas et on ne dort pas bien parce que la nuit, alors c'est ça que je dis toujours, vous êtes à Yaoundé, d'après ce que j'ai compris, mais vous êtes là-bas physiquement, mais votre tête est chez vous
au Burkina,
vous voyez un peu. Donc, vous vivez à deux espaces et être à deux espaces vous désorganise complètement. Donc, vous ne pouvez pas vous concentrer même pour les études. Et ce que j'ai dû peut-être aussi relever, c'est que votre compatriote vous a aidé beaucoup. C'est ça qu'on dit souvent. Et ça, on appelle ça le tiers qui est là, et avec qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez peut-être partager certaines choses. Ça aide beaucoup à pouvoir sortir de cet isolement.
Donc, ça va être une personne ressource sur, lequel, sur laquelle s'appuyer.
Exactement. Donc, je conseille toujours, le plus souvent, à tes patients comme ça, de faire un effort possible de trouver une personne, et non des réseaux de téléphone. Vous savez, maintenant, il y a la possibilité des réseaux de téléphone, tout, parce que c'est moins cher maintenant, il y a tout ça. Mais au contraire, si on reçoit au téléphone, on risque de développer une autre pathologie, une maladie. Voilà. Donc, ce sont les choses pour lesquelles il faut peut-être commencer à repérer sur ces familles-là.
Faire preuve de modération. En tout cas, Djenéba, vous nous avez expliqué que vous alliez bientôt rentrer au pays. C'est quelque chose qui vous met en joie quand vous y pensez. Ça vous fait du bien de rentrer?
Oui, je suis vraiment contente et j'ai hâte.
Vous avez hâte. En tout cas, ça s'entend dans votre voix. On vous remercie infiniment. Merci pour votre appel. Jean-Oscar Macasso, on va poursuivre notre échange. Hein, le mal du pays quand on se prépare un départ, quand on vient de s'installer. D'autres auditeurs, ce sera juste après Mickaël Kiwanuka dans Priorité Santé avec Follow Your Dreams sur RFI. Priorité santé, faire face au mal du pays, cette déprime particulière lorsque l'on vit loin de chez soi. Quelle prise en charge pour soulager cette mélancolie? Nous sommes toujours avec Jean-Oscar Macasso, docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse. Différents symptômes, on l'a dit, physiques, psychologiques, qui accompagnent ce mal du pays. Est-ce que des fois, les patients viennent vous voir en disant « j'aimerais avoir des conseils, aidez-moi s'il vous plaît » pour avoir moins ce sentiment d'être tout seul en terre inconnue?
Oui, le plus souvent, ça arrive. Mais on peut aussi découvrir ça pendant des séances de consultation. Mmh. Moi, je pense que c'est très important. Vous savez, la plupart des personnes qui restent ici depuis 10 ans, 15 ans, qui ne sont jamais rentrées parce qu'ils n'ont pas peut-être résoudre les problèmes administratifs, mm-hmm. parce qu'ils sont bloqués, hein, et tant qu'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas normalement voyager. Et ces personnes, quel qu'en soit le cas, elles sont dans cette phase normalement d'être de payer, même si peut-être on ne peut pas le décrire, et c'est quelque chose de très difficile. Et surtout, le plus souvent, lorsqu'on a perdu un membre de la famille et qu'on ne peut pas vraiment voyager, vous voyez.
Mmh. En cas donc, de deuil et qu'il est impossible d'aller à la cérémonie. C'est terrible, ça.
C'est terrible, ça, vous savez. Ce sont les choses pour lesquelles, moi, je pense que vous l'avez bien dit, ça s'installe normalement la mélancolie. Mmh. Ouais, bon, ce sont les choses... les gens ne peuvent pas les décrire autrement, mais nous, on le ressent. D'où on essaie de faire en sorte de réfléchir, permettant que si les personnes n'ont pas le papier, dès qu'elles ont le papier, la priorité, c'est vraiment aller dans leur pays d'origine, permettant de se ressourcer, presque de se soigner à travers normalement, cette nostalgie de pays.
Et pourquoi pas réorganiser une cérémonie d'hommage, peut-être pour le défunt dans ces cas-là, quand il y a eu un deuil qui n'a pas été fait?
Alors, ici, bien sûr que ça s'est fait. Mais vous savez que tous les symboles ne peuvent pas être réunis, toutes les conditions non plus. Et la terre des ancêtres, et là, la communication ne se passe pas parce que ça passe par l'intermédiaire puisqu'on est dans un pays étranger. Donc, il y a d'autres cérémonies qui doivent se faire pour lesquelles la personne est obligée d'être sur place pour que ça se fasse.
Alors, tout de suite, un autre témoignage avec un message sur le répondeur WhatsApp 33 7 61 18 46 41. C'est Alexandra, 10 000 km de distance entre son Cameroun d'origine, le Canada, où elle vient récemment de s'installer. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé à tous les auditeurs. Je suis Alexandra, âgée de 28 ans, originaire du Cameroun. J'ai suivi la procédure d'immigration travailleur qualifié pour des raisons économiques, c'est-à-dire la recherche des meilleures conditions de travail. Donc, ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai quitté le Cameroun pour le Canada, plus précisément à Toronto, où j'ai été accueillie par un membre de la famille, une cousine. Je vous avoue que les premières semaines, les premiers jours n'étaient pas évidents. Je pleurais en longueur de journée parce que j'étais nostalgique. Je pensais à mes frères et sœurs, mes amis, ma maman, l'environnement, parce que tout change. D'ici quelques jours, je vais aménager chez moi. Et j'appréhende tellement ce moment, tellement. Quand je vais me retrouver toute seule, je ne serai plus avec ma cousine et sa famille. Je vais me retrouver seule là. Ce sera difficile pour les différentes démarches administratives parce que moi, je ne m'exprime pas en anglais. Je fais un peu les efforts, mais c'est tellement difficile pour un début. Par contre, elle s'en sortait déjà. Une seule fois, je suis sortie seule et Google Translate était mon meilleur compagnon. Bon, ma préoccupation est la suivante. Je ne sais pas comment je vais allier les cours d'anglais à faire lorsque je serai installée chez moi et trouver rapidement un logement, un travail pour me permettre de payer aisément les prochains mois de loyer. Devrais-je rentrer? Parce qu'à un moment, j'ai même pensé à rentrer, à laisser tout tomber et à rentrer.
Alors, Jean-Oscar Macasso, on entend Alexandra. Hein. C'est compliqué, changement de continent, de langue, de climat. Bientôt toute seule dans un logement. Elle a ça pour elle, c'est qu'elle a la famille pour l'instant. Elle dit, je suis tentée de baisser les bras. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Alors, tout de suite, j'aimerais dire à Alexandra de ne pas baisser les bras. Ça fait partie de l'expérience et surtout les difficultés d'un étudiant en général lorsqu'on arrive. Et pour d'autres, peut-être c'est plus facile et d'autres, c'est encore plus compliqué. Et je peux comprendre que s'éloigner de ses parents, surtout jusqu'à aller au Canada, et ne parlant pas, ne maîtrisant pas normalement la langue, ce n'est pas seulement la communication sociale, mais il faut savoir quand même qu'elle doit maintenant réussir à l'université, parce que c'est là aussi. Et donc, il faudrait, la première des choses que moi, j'aimerais le conseiller, c'est de faire un effort d'apprentissage
au de niveau, la langue.
Exactement, de la langue. Ça, c'est sa priorité. Et permettre, quelle qu'en soit peut-être ses difficultés de la langue, il ne faut pas que ça la bloque, parce que je sens qu'elle elle commence à se bloquer psychiquement. Et que lorsqu'on commence à se bloquer, ça serait très difficile de pouvoir peut-être répondre à d'autres résolutions. Deuxièmement, s'il y a la possibilité, c'est toujours de garder le lien avec sa cousine. Hein, et même s'il y aura une distance un peu où elle va trouver, mais de garder vraiment cette personne de ressources qui l'aidera au fur et à mesure, le temps qu'elle soit plus ou moins autonome, et aussi de se rapprocher aussi auprès aussi des universités, parce que je pense qu'elle rencontrera aussi des compatriotes, elle ne sera pas seule.
Des groupes d'étudiants.
Des groupes d'étudiants, les réseaux qui pourront aussi, d'autres sont aussi dans le même cas de sa situation.
Hein, y compris pour faire des activités extrascolaires.
Exactement. Il ne faut pas qu'elle s'isole. Parce que si elle s'isole, c'est la dépression et elle risque de se retrouver à l'hôpital. Et quel hôpital? Ça sera l'hôpital psychiatrique. Donc, ce n'est pas ça. Je pense qu'elle part avec un bon projet. Et peut-être, elle ne s'attendait pas à cela, mais ça fait partie aussi des moments de plaisir permettant de réussir plus tard.
Persévérer, c'est bien ce message.
Voilà.
On a un témoignage que nous a adressé sur WhatsApp. Monica, elle est installée au Togo à Lomé. Monica, elle explique qu'elle est d'origine centrafricaine. Elle vit au Togo depuis son enfance. Hein. Depuis ses 5 ans, elle est mariée à un Togolais, elle a des enfants, mais elle ressent un vide, une nostalgie par rapport à la Centrafrique où vit sa famille. Elle y est pas retournée depuis 7-8 ans. Monica se reproche de vouloir retourner en Centrafrique et elle voudrait savoir si c'est normal de se sentir coupable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Elle peut sentir coupable. Vous savez, c'est ça. C'est parfois, c'est un peu difficile lorsqu'on est enfant.
Pourquoi quelque chose, finalement, qu'on connaît assez peu peut nous manquer autant? C'est un mystère, ça.
Oui,
c'est quasi philosophique.
Oui, alors que c'est un mystère, mais vous savez, on ne sait jamais séparer de quelque chose qui est tellement intense en soi. Et ça me rappelle un peu des enfants adoptés. C'est ça qui me revient. Les enfants adoptés, par moment, on pense qu'on l'a adopté tant petit, donc...
Ils ont tout oublié.
Ils ont tout oublié.
C'est faux.
C'est faux. Et il y a des conséquences terribles après. J'en rencontre dans mes consultations. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est normal parce que tout ce qui est dans le lien, je dirais comme ça, ancestral, pour certaines personnes, ça résonne très fort jusqu'à ce qu'il faut qu'on puisse l'exprimer.
Ce que vous dites, Jean-Oscar Macasso, c'est que non seulement c'est normal, mais d'une certaine manière, elle n'a pas à se sentir coupable. C'est plutôt une belle chose.
Il ne faut pas qu'elle se sente coupable. Il ne faut pas qu'elle se sente coupable. Étant donné qu'elle a déjà la famille là-bas, c'est déjà quelque chose de très important. D'autres, parfois, ils ne retrouvent pas la famille. Mais elle peut retrouver la famille, donc qu'elle ne se sente pas coupable.
On prend maintenant la direction de la Côte d'Ivoire.
RFI à Boaké, 97.6 FM.
Et on retrouve maintenant en ligne Koné. Koné, bonjour.
Bonjour Caroline.
24 ans, Koné, et vous êtes originaire d'une autre région de la Côte d'Ivoire. On a dit Boaké tout à l'heure. Vous venez d'où précisément?
Moi, je suis à Séguéla. Je viens de Séguéla.
Quand vous parlez de Séguéla, vous dites le village, vous dites quoi? La maison? Vous utilisez quelle expression?
Bon, moi, je viens de Séguéla, précisément la sous-préfecture de Kani.
Ouais.
Généralement, on utilise notre langue locale, qui est le Wordugba, avec les parents.
D'accord. Donc, vous parlez une langue différente en famille. Qu'est-ce qui a changé quand vous avez quitté Séguéla par rapport à Boaké?
En fait, quand j'ai quitté Séguéla pour Boaké, au niveau de la collaboration avec mes amis, vraiment, c'était pas ça, puisque j'étais isolé dans mon coin. Voilà. Donc, étant une nouvelle personne dans la ville, je ne maîtrisais pas trop la situation de la ville. Voilà, étant isolé aussi des parents, donc ça devient compliqué pour moi.
Ça fait combien d'années que ce déménagement, il remonte à quand précisément?
Bon, depuis février 2021.
Donc, ça fait presque plus de 4 ans. 200 kilomètres entre Séguéla et Boaké. Vous y retournez régulièrement voir la famille?
Bon, non, pas trop comme ça.
Oui, parce que ça coûte cher, j'imagine.
Ouais.
Vous avez réussi à vous faire des amis à Boaké en 4 ans ou pas du tout?
Oui, bon, on a des amis sur la fac. En dehors de ces amis-là, je n'ai pas d'amis encore.
Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Koné?
Bon, en fait, comment m'intégrer avec les autres et puis laisser cette situation de solitude, enfin que je m'habitue à la ville voilà, pour pouvoir mieux vivre.
Quand on vous propose de sortir, Koné, vous y allez ou vous restez chez vous?
Bon, je ne sors pas trop.
Pourquoi?
Bon, puisque on nous dit que la ville étant déjà risquée.
D'accord.
Donc, je suis dans mon coin.
Vous êtes dans votre coin. Jean-Oscar Macasson, on entend Koné. Vous disiez tout à l'heure ne pas avoir les codes, avoir des craintes, c'est bien ce qu'il ressent, on dirait.
J'ai l'impression comme ça que non seulement... il a peur un peu aussi de la ville parce qu'il a eu des informations comme quoi il ne faut pas sortir. Déjà, ça le met un peu dans l'isolement, ça l'enfermait déjà, vous savez. Et donc, on a vu aussi, il y a d'autres qui ont des peurs, ça veut dire de s'intégrer aussi. Parce que socialement, j'ai l'impression qu'il a des difficultés de se socialiser, mais en même temps, on renforce encore cette peur-là que la ville, il ne faut pas passer, c'est un danger. Je pense qu'il a du mal aujourd'hui à pouvoir s'intégrer et j'aimerais quand même lui faire comprendre que malgré qu'on lui dise qu'il faut qu'il fasse attention, la ville, ça fait peur, il faudrait qu'il se rassure d'abord avec des amis.
Être accompagné
et de ne pas aller n'importe où, mais de sortir, parce que s'il ne sort pas, il va se sentir vraiment très mal, isolé encore, et puis ça risquerait vraiment de le mettre en difficulté à l'université. Donc, je l'invite à être dans des réseaux qui lui permettent, surtout vraiment les étudiants, qui lui permettent vraiment de continuer à vivre. Et non pas de souffrir.
Vous avez autour de vous, je ne sais pas, une connaissance à qui vous pourriez confier cette difficulté et lui demander en quelque sorte de vous parrainer pour aller à des sorties, etc. Ce serait possible?
Ok, je vais en chercher pour voir.
Ok. Ben, bon courage et merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne journée, Jean-Oscar Macasson. On a aussi une auditrice qui est installée en Allemagne, Maïmouna, qui nous a laissé ce message. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, moi c'est Maïmouna, j'ai 37 ans, je vis en Allemagne et j'ai quitté mon pays, le Niger, depuis 7 ans maintenant pour le travail ici. Et au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je pouvais passer toute la journée sans manger au travail et je rentrais à la maison, c'était tout. Le vendredi soir, je rentrais, je ne ressortais que le lundi pour aller travailler et j'avais pas du tout envie de sortir ni de manger. Et c'est un collègue du bureau qui me disait « Attention, ça c'est le mal du pays. » Et je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Et c'est elle qui m'a motivée petit à petit à sortir, qui me motivait à aller à la cantine manger à midi. Et c'est là que ça a commencé à aller. J'étais complètement déprimée. Et j'avoue qu'après 7 ans passés aussi en Allemagne, je continue à ne pas vouloir trop sortir en fait. J'ai des amis, c'est vrai, mais je préfère rester chez moi toute la journée, au lit. Je peux rester tout le week-end cloué au lit avec mon téléphone à parler avec ma famille. Merci beaucoup.
Jean-Oscar Macasso, 7 ans en Allemagne. C'est vrai que quand on écoute le témoignage de Maïmouna, au début, ça ressemblait vraiment à une dépression. Hein.
Oui.
Rester au lit.
Elle a bien décrit. Et en même temps, elle a bien dit aussi que je restais presque au lit uniquement au téléphone avec ma famille. Ouais. Donc vous voyez un peu les gestes comme ça, les habitudes. Il faut poser les limites. Même en même temps, on a du mal. Si une autre personne ne peut pas vous renvoyer, normalement c'est derrière. Parfois, on peut être même dans le déni.
On entend qu'elle a vraiment eu, Maïmouna, une personne ressource. Oui. Cette personne qui lui a ouvert les yeux.
C'est très important d'avoir vraiment des amis et des personnes qui peuvent vous renvoyer une certaine réalité en face. Et elle a vite compris aussi. Je pense qu'elle a saisi aussi ces discours-là, permettant de comprendre que non, il ne fallait pas qu'elle continue à fonctionner ainsi. Mais d'autres, malheureusement, ils s'installent ainsi. Pour eux, peut-être ça devient un confort. Mais malheureusement, ils peuvent se retrouver en difficulté, notamment dans le pays d'accueil.
Alors, une autre situation cette fois, c'est un voyage en préparatif pour vous. Yérima, bonjour.
Bonjour.
Alors Yérima, vous êtes au Tchad. Dans quel pays est-ce que vous êtes sur le point d'aller vous installer?
C'est au Nigeria.
Au Nigeria. Vous avez déjà quitté le Tchad?
Non, pas encore. Pas une fois.
Pas jamais. Alors, et comment est-ce que vous vous sentez, Yérima, avant ce départ?
Je me sens un peu étrange. Je ne comprends pas.
Vous avez peur de quoi précisément?
J'ai peur de tout laisser derrière moi, en tout cas.
Vous avez peur de quoi? Qu'on vous oublie ou d'arriver quelque part où vous ne savez rien?
D'arriver quelque part où je ne sais rien.
Et le Nigeria, c'est votre choix? Vous allez y faire quoi?
C'est pour les études.
Pour les études. Aujourd'hui, Irima, vous avez 19 ans, c'est ça?
Oui.
Vous avez parlé de cette peur, quelqu'un autour de vous déjà?
Non, je pense pas, non.
Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Vous avez un petit peu honte d'avoir peur alors que vous avez la chance d'aller faire des études au Nigeria?
Oui, quelque chose de ça.
Ouais. Vous avez peur que votre famille vous dise, bah, écoute, tu fais des études, de quoi tu te plains, c'est ça?
Oui, oui.
Ouais. Et aujourd'hui, pourtant, vous avez décidé d'en parler. Alors pourquoi vous avez voulu parler sur ce sujet, le mal du pays, aujourd'hui?
Bien, c'est... J'aimerais parler à un médecin, un professionnel, pour me guider, en tout cas.
Pour lui poser quelles questions, précisément, Irima? Voudriez-vous lui poser quelles questions?
Oui. À quoi dois-je m'attendre une fois là-bas? Parce que là-bas, je ne connais pas l'anglais. Il faut apprendre encore cette nouvelle langue.
Quand vous allez arriver là-bas, Irima, vous ne connaîtrez personne? Vous allez vous installer où? Dans un logement étudiant?
Avec un ami, oui.
Avec un ami. Ah, vous partez avec un ami, ça c'est important.
Non, il est déjà là-bas.
Ah.
Oui, et moi je vais le rejoindre.
Ok. Vous lui avez dit à cet ami que vous aviez des craintes?
Non.
Non? Jean-Oscar Macasso, est-ce que vous diriez à Irima peut-être d'appeler cet ami pour essayer de préparer ensemble l'arrivée?
Oui, et effectivement, tout ce qui vient de dire, alors moi, je trouve dans son discours un aventurier. Un aventurier, mais qui a peur. Voilà. Et en même temps, il ne se confie pas. Vous savez, avant de préparer le voyage, le plus souvent, que ce soit les études, que ce soit autre voyage, un peu lointain, hors normalement de son environnement, et on peut se rassurer à travers aussi la parole normalement des parents, ou bien la parole de la famille. Parce qu'il y a une réunion qui s'est faite pour qu'on vous confie une parole qui permettra de vous protéger durant votre séjour, durant votre voyage.
Est-ce que vous conseilleriez justement à Irima de se confier à sa famille et de dire, voilà, je suis vraiment fière et content de partir, mais malgré tout, il faut que je vous le dise, j'ai peur de vous quitter, j'ai peur d'aller à un endroit que je ne connais pas.
Exactement, j'aimerais le conseil ici. Vous savez, et c'est un Africain, bon, le plus souvent il y a des croyances. Moi je le côtoie un peu. Et donc, par moments, il peut rencontrer ses parents pour que les parents lui confient une parole. Et cette parole vienne de loin, permettant qu'il soit vraiment, c'est-à-dire renforcé par cette peur-là. Vous savez, si je pense, c'est comme ça que j'essaie de voir, s'il part avec cette peur, il y aura toujours une certaine fragilité s'il n'arrive pas vraiment à travailler ça d'abord avant son départ. Donc je le conseille vraiment d'en parler et aussi de rassurer et d'appeler aussi son ami qui est lointain, permettant de le préparer, de le rassurer aussi de la manière dont il pourra être plus ou moins disponible pour lui et pour l'accompagner pour cette expérience un peu de ses études.
Vous en pensez quoi, Irima? Engager cette discussion avec la famille, avec votre ami?
Oui, je vais le faire. Ah. Et sinon, j'ai aussi une question là.
Allez-y.
Ici, j'ai un... quand j'ai mal ou je me sens seul, j'ai un endroit où j'écoute de la musique, je pars, je marche et j'oublie. Ça me remonte un peu la morale.
Oui.
Mais une fois là-bas,
Vous vous dites, est-ce que je trouverai du soulagement en allant me promener en écoutant de la musique?
Oui.
Ah ben, Jean-Oscar Macasso, c'est à lui-même de créer ses réflexes pour aller mieux?
Moi, je pense qu'il est en train de chercher des solutions permettant de surmonter cette peur-là. Mais qu'il se rassure qu'arrivé là-bas, c'est sûr que son ami va lui montrer des endroits pour lesquels il pourra aussi se retrouver en confiance et aussi se ressourcer. Moi, je pense que ça va bien se passer, il n'y aura aucun souci.
Eh bien, écoutez, un grand merci pour votre appel, hein, Yérima. Très, très bonne journée. Jean-Oscar Macasso, après ces différents échanges, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans certains de ces témoignages, vous avez envie d'ajouter quelque chose ?
Je pourrais dire que c'est, cette émission aujourd'hui, normalement de pays, c'est très important.
Ouais.
Peut-être on n'en parle pas souvent, mais nous voyons quand même qu'il y a une grille de lecture tellement des causes et puis des souffrances qui se retrouvent et que soyons, je dirais, vigilants et aussi à l'écoute des patients que nous recevons. Et c'est pas seulement de les prescrire les médicaments, mais c'est aussi de comprendre quand même que lorsqu'on est dans un déplacement, et c'est très important que les personnes ne peuvent pas se déconnecter normalement du pays d'origine ou bien de sa famille. Et on a toujours ces ancêtres-là, que ce soit les vivants que les morts, hein, qui sont là toujours, et dont nous devons tenir compte de cela, permettant de surmonter normalement ce mal-être pour que les gens aillent mieux.
Tout un processus. Merci voilà. pour votre éclairage, Oscar Macasso. Toutes ces réponses à nos auditrices et nos auditeurs. À très bientôt, j'espère, dans Priorité Santé. On va parler de la journée mondiale dédiée aux malades de la lèpre dans quelques instants, juste après Natou Camara avec ce titre, Cinco Mina. Jour dédié aux malades de la lèpre, sensibiliser, informer sur une maladie que beaucoup pensent à tort, qu'elle appartient au passé, ce n'est donc pas le cas, comme on va le comprendre avec vous. Docteur Bertrand Cauchois, bonjour. Bertrand Cauchois, bonjour.
Oui, bonjour Caroline Paré, bonjour à vos auditeurs.
Vous êtes expert international de la lèpre, conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau. La lèpre, maladie infectieuse chronique, on connaît son nom, mais on n'en sait pas forcément plus. Par exemple, le fait que plus de 200 000 personnes sont chaque année touchées. Quels sont aujourd'hui les chiffres clés quand on parle de cette maladie ?
Ben, le chiffre clé, effectivement, c'est qu'il y a au moins 200 000 malades qui sont dépistés. Mais comme ça touche essentiellement des populations pauvres qui n'ont pas vraiment accès au système de santé, on est certain que ce chiffre est une large sous-estimation.
En termes de géographie, docteur Cauchois, où la lèpre est-elle aujourd'hui présente et son incidence d'ailleurs préoccupante ?
Alors la lèpre, il y a, on va dire, quatre zones géographiques qui sont majeures, qui sont l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique, où on regroupe à peu près 15% des cas. Et nous, à Follereau, c'est notre terrain de bataille.
Alors la lèpre, on le sait, notamment dans l'imagerie, depuis des millénaires, cette maladie peut être extrêmement invalidante. Dans quelle mesure le dépistage de la lèpre est-il particulièrement compliqué ?
Alors, le dépistage de la lèpre, il est compliqué parce que, justement, on est sur des populations extrêmement pauvres. La lèpre, elle va malheureusement être inégale. Elle va toucher des populations qui sont essentiellement pauvres, exclues du système de santé, soit pour des considérations financières que d'accès logistique. Et toute la complication, c'est de faire comprendre à des populations qui sont exclus, que le moindre petit signe dermatologique doit conduire à consulter. Et je rebondis sur l'émission d'avant. Souvent, on entend des malades qui ont dit « j'ai peur d'aller au système de santé parce que je ne connais pas, j'ai l'habitude de mon tradit praticien ». Et ça rebondit avec votre émission juste avant. On a des malades qui ont peur de faire la démarche vers un système de soins qui est très éloigné de leurs considérations quotidiennes.
Alors justement, ce petit signe qui doit alerter sur la peau, c'est quoi ?
La lèpre, ça se guérit si elle est dépistée tôt. Et dépistée tôt, c'est une simple tache dépigmentée sur la peau dont nous, soignants, on précise qu'elle est insensible. Elle gratte pas, elle fait pas mal. Donc, toute la difficulté dans la démarche de soins, une tâche qui fait pas mal, est-ce que je vais aller consulter ? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser. Une simple tâche doit conduire à faire un diagnostic et on aura une guérison absolue sans aucune séquelle, sans invalidité.
Ça veut dire que si on est sur peau noire et que la tache elle est localisée au niveau des mains, on va avoir une tache légèrement grisâtre, c'est quoi ?
On va avoir une tache décolorée, dépigmentée, qui sera grisâtre, voire blanchâtre.
Avec une maladie qui est aussi caractérisée par cette très longue incubation, ça veut dire qu'on... La maladie est en quelque sorte dormante pendant des années avant qu'il y ait vraiment des signes cliniques très visibles qui peuvent là alerter les soignants.
Et exactement. L'incubation, on dit classiquement qu'elle dure entre 2 ans et 20 ans, avec une moyenne à 5 ans. Heureusement, pendant l'incubation, classiquement, il n'y a pas de transmission. Mais toute la difficulté, c'est que souvent, c'est une maladie qui se transmet à l'intérieur d'une famille et on va dépister un membre de la famille. Et par contre, c'est que 7 ou 10 ans après que d'autres membres de la famille vont attraper cette maladie.
Donc l'importance aussi, vous disiez tout à l'heure, en milieu isolé, en milieu rural, enclavé, très important de sensibiliser donc tous les soignants, y compris dans les centres de santé primaire, tout comme les tradis praticiens, ce sera le mot de la fin.
Bien entendu, sensibilisons tous les acteurs, qu'ils soient communautaires ou qu'ils soient personnels de santé.
Et c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui avec les différents organismes mobilisés pour cette journée internationale pour les malades de la lèpre ?
Oui, bien entendu, la journée mondiale, c'est 6000 bénévoles en France qui sensibilisent, qui interpellent la conscience publique en France et en Europe. Et nous, sur le terrain, c'est plaidoyer auprès des autorités, formation des personnels de santé, sensibilisation des populations.
Un grand merci à vous, docteur Bertrand Cauchois. Merci pour toutes ces explications. Et Priorité Santé touche à sa fin avec aujourd'hui un remerciement géant, affectueux et reconnaissant pour un compagnon, un artisan, un pilier de Priorité Santé, Didier Bleu. Toute l'équipe se joint à moi pour lui dire merci. La gentillesse a un prénom Didier et une couleur bleue. Demain dans Priorité Santé, émission Questions de femmes consacrée à la santé cardiaque, AVC, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, un cardiologue qui sera là pour répondre aux auditrices de l'émission.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.